Dans l'optique de favoriser une culture d'apprentissage et de partage de bonnes pratiques, l'Observatoire estrien du développement des communautés présente Sonar, un balado qui explore en profondeur les dessous de l'action collective et du développement des communautés en Estrie à travers des rencontres inspirantes avec les acteurs sur le terrain. On vous présente un épisode sur la relance à asbestos après la fermeture de la mine Jeffrey. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Frédéric Marcotte, directeur général à la MRC des Sources. Monsieur Marcotte, bonjour.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Pouvez-vous nous dire d'abord qui vous êtes et comment vous vous réalisez professionnellement dans la région de l'Estrie?
En fait, tout le plaisir est pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis urbaniste de formation. J'œuvre au développement de la région de la MRC des Sources depuis 9 ans. Moi, j'ai débuté là, comme responsable du service d'urbanisme et d'aménagement du territoire en 2011. Suite à l'abolition des CLD en 2015 par le gouvernement du Québec, la MRC m'a fait confiance puis m'a offert le poste de directeur général pour relever les défis, notamment de la diversification économique puis de la planification et de l'aménagement du territoire. Mais je siège sur plusieurs conseils d'administration régionale, plusieurs tables. Je suis aussi là, président de la table des DG de MRC de l'Estrie depuis maintenant 3 ans.
On va parler aujourd'hui ensemble de la relance de la ville d'asbestos et plus largement de la MRC des Sources à la suite de la fermeture de la mine Jeffrey en 2012. De quelle manière la MRC a-t-elle amorcé ce travail-là?
La MRC a organisé un pré-sommet sur la diversification économique auquel étaient invités là, des nombreux partenaires. On parle du milieu de l'enseignement, les ministères et organismes, les leaders de la communauté, plusieurs organisations de développement économique, les élus de la région. Des actes de ce pré-sommet découlent notamment la stratégie de diversification économique de la MRC.
Pouvez-vous nous parler un petit peu de la stratégie de la relance et nous exposer ce que les gens souhaitaient voir changer avec cette stratégie-là?
Tout à fait. La stratégie de diversification économique de la MRC souhaitait miser sur les forces et les créneaux d'avenir pour relancer l'économie de notre région. Pensons notamment à l'industrie agroalimentaire. On a un territoire agricole extrêmement prospère dans la MRC, des paysages fabuleux, des belles entreprises agricoles. Comment travailler à les développer? Comment miser sur les créneaux déjà présents, notamment la transformation métallique? On a des usines extrêmement intéressantes, des belles entreprises en plein développement pour la transformation métallique. Comment en faire un créneau porteur pour la reconstruction de notre économie? Puis également, quels allaient être les créneaux d'avenir plus axé sur les technologies de l'information et des communications, à titre d'exemple, ou les technologies environnementales. L'heure était venue pour nous de concentrer nos efforts sur certains secteurs économiques. On voulait maximiser nos forces, par le fait même, nos chances de réussite.
Et pouvez-vous nous dire quels ont été les bons coups de la relance?
Bien, par ce plan stratégique, nous avons, en tant que milieu, décidé de faire des choix pour prendre notre destin en main. Comme le disait M. Grimard, maire de la ville d'Asbestos puis préfet de la MRC, il est temps que collectivement, on se retrousse les manches et on regarde vers l'avenir. Cette décision nous a fait mal en tant que communauté, mais pleurer sur notre sort ne réglera pas nos problèmes. Donc, on se retrousse les manches puis on fonce. C'est le leadership politique qui a été un élément déclencheur pour la communauté. Les messages positifs, la transformation du on est triste, on n'a pas eu notre prêt, on est malheureux de ça, en chiolage, là. Puis de se concentrer nos efforts, puis dire on va la mettre notre énergie pour se retrousser les manches, puis relever les défis importants qui sont devant nous. Ça, ce leadership-là qui a été pris par l'ensemble des politiciens, peu importe les paliers, là, fédéral, provincial, surtout municipal, parce qu'on parle d'une prise en charge de notre communauté, là, ça a fait une grosse différence auprès des gens puis de la perception des gens qu'il se passe quelque chose ici.
Pouvez-vous nous parler du projet d'Alliance Magnésium qui fait partie des initiatives choisies dans le plan de relance?
Au début des années 2000, la région avait fait face à un projet qui était aussi de la valorisation de résidus miniers, qui était le projet de Magnola. Ce projet-là présentait des investissements monstrueux pour réaliser une usine qui allait produire énormément de magnésium issu de la valorisation des matières résiduelles de l'ancienne, en fait des résidus miniers là, de l'ancienne usine de la mine Jeffrey. Puis, ce projet-là là, avait généré des investissements majeurs sur notre territoire, avait créé énormément d'emplois à l'époque. Puis, en l'espace de quelques années, tout s'était effondré. Ça avait été une euphorie, mais de courte durée. Puis, lorsqu'Alliance Magnésium a annoncé son projet, tout de suite, là, les appréhensions face à un Magnola 2.0 là, sont arrivées dans la communauté. Par contre, le milieu a cru au projet, a cru aux promoteurs, des gens qui nous expliquaient qu'ils souhaitaient faire un magnésium d'une pureté, un magnésium le plus propre au monde, que la technologie n'était pas du tout la même que Magnola, que leur souhait était justement de s'impliquer dans la communauté. Donc, la ville d'Asbestos a mis en place un comité d'acceptabilité sociale. Puis, pour permettre de suivre l'évolution de ce projet-là, puis que la communauté ait l'opportunité d'exprimer ses préoccupations et ses inquiétudes. Et il y a un très bel accueil du côté d'Alliance Magnésium pour ce projet-là. Il y a aussi eu l'appui du milieu. On a exprimé nos préoccupations, mais on les a soutenus dans les premières phases de concrétisation pour l'implantation de leur projet. C'est pas facile de lever un projet de cette envergure-là, puis je lève mon chapeau aux entrepreneurs qui ont accepté de relever le défi dans notre communauté. Puis le projet aujourd'hui là, démarre très, très bien, puis c'est extrêmement enthousiasmant de les voir réaliser leur projet et d'apporter chez nous des emplois de grande qualité. Si on parle d'un autre, une autre fierté, un autre bon coup de la relance, c'est, selon moi, la mise en place du Centre d'innovation minier de la MRC des Sources. C'est un partenariat entre le Cégep de Sherbrooke, la Ville d'Asbestos, la Corporation de développement socio-économique de la Ville d'Asbestos. La MRC aussi est impliquée. Et la SADC des Sources, il ne faut pas les oublier. Puis, ce projet-là, ce qu'il visait, c'était... travailler pour que l'industrie puisse bénéficier des savoirs de l'enseignement supérieur pour développer, faire de la recherche et développement, mettre à l'échelle des procédés pour ne pas que le projet vive les contre-coups similaires qu'a pu vivre à l'époque Magnola. Donc, les différentes adversités qu'ils rencontreront pourront bénéficier d'un accompagnement de proximité dans le milieu par un centre de recherche. Puis de se doter d'une telle infrastructure dans notre petite communauté, c'était vraiment un coup extraordinaire, comme une pierre d'assise du développement de notre région. Aujourd'hui, le CIMS, le Carrefour d'innovation minier, a évolué. Plusieurs thématiques de recherche en partenariat avec l'université et avec le cégep encore ont amené à transformer le centre pour en faire le Carrefour d'innovation sur les matériaux. Donc, le magnésium est un matériau du futur, est un matériel stratégique pour le développement du Québec, mais il y a plein d'autres matériaux qui peuvent être extrêmement intéressants. Puis dans la région, on se positionne pour que, dans le cadre des technologies environnementales, les écomatériaux deviennent porteurs de développement de notre région. Donc, le carrefour d'innovation sur les matériaux devient maintenant une pierre angulaire, oui, pour le développement de l'industrie, de l'hydrométallurgie, comme le projet d'Alliance Magnésium, mais aussi pour d'autres projets, que ce soit la valorisation de matières biosourcées, que ce soit la valorisation de matières résiduelles, que ce soit dans l'énergie. Donc, c'est un centre de recherche extrêmement intéressant qu'on développe en partenariat avec les deux établissements d'enseignement supérieur de la région de l'Estrie.
Wow! Et est-ce que des innovations ou des nouvelles façons de faire ont émergé de votre démarche?
Oui. On a énormément misé sur notre créativité et notre agilité pour être capable de saisir les opportunités et les partenariats qui allaient nous permettre de nous propulser plus rapidement vers notre objectif de diversification économique. Donc, on a pensé en tant qu'équipe, en tant que territoire, plutôt que de réfléchir en silo. Nous avons fait des choix stratégiques. Puis choisir, c'est exclure. Donc, évidemment, il y a des choses qu'on a volontairement décidé de ne pas faire pour pouvoir mettre notre énergie sur les éléments qui allaient devenir distinctifs pour nous. Donc, c'est pas facile faire ça. Lorsqu'on assure un leadership politique d'un territoire avec des objectifs clairs et des projets ambitieux, ça amène son lot de défis, puis... ça a été vraiment beau de voir à quel point l'agilité la collaboration et le partenariat sont devenus partie prenante de l'ADN de notre organisation, mais aussi des municipalités de notre région.
Et quelle embûche avez-vous rencontrée en lien avec la mobilisation des partenaires?
Pourquoi asbestos? Ça, c'est la question que je me suis le plus souvent fait poser depuis que je dirige l'organisation. Moi, je réponds toujours, pourquoi ailleurs ou pourquoi pas ici? Partir d'une idée vierge, de construire un créneau d'avenir, de sortir des sentiers battus pour relever les défis de notre communauté, il faut être têtu pour convaincre. Puis, il faut être appuyé aussi. Puis ça, les maires de la MRC, ils nous ont vraiment donné un appui inconditionnel aux réalisations qu'on tentait de faire. Ils nous disaient clairement, ils nous mentionnaient clairement leur objectif, où est-ce qu'ils voulaient se rendre. Puis après ça, ils nous donnaient quand même la latitude pour pouvoir explorer puis trouver les meilleures avenues. Puis ça, ça l'a vraiment donné confiance à notre organisation. Puis ça nous a permis d'être un peu audacieux puis de confronter les gens qui nous qui doutaient ou qui croyaient pas que notre milieu était capable de se relever. La mobilisation des partenaires locaux est très forte chez nous. La coopération fait partie de l'ADN de notre communauté. Je dirais que depuis le début, pour répondre à la hauteur des attentes puis d'un tel défi, c'est impossible de penser de travailler tout seul. Donc, c'est devenu partie intégrante de notre façon de faire, de travailler ensemble et en collégialité, que ce soit les organisations communautaires, que ce soit les organisations de développement économique, les élus, les municipalités ensemble.
Et comment cette action-là se répartit dans le territoire?
On tend à accroître et à augmenter notre complémentarité entre les territoires et les secteurs d'activité, répartir les tâches et responsabilités pour que la MRC constitue un tout cohérent et structuré. Quand on travaille les municipalités ensemble, on identifie les forces de chacun puis les faiblesses, puis après ça, on n'essaie pas de se cannibaliser entre nous les projets d'entreprise. Donc, quand c'est une entreprise qui a besoin de services majeurs, bien là, Asbestos dispose du parc industriel qui est capable de l'offrir. On parle grande puissance électrique, grand réseau d'aqueduc, gaz naturel. Après ça, quand c'est de l'industriel un peu plus léger, Danville a de très, très belles opportunités, proximité d'infrastructures, on parle routière plus intéressante, proximité de la 116, plus grande proximité de la gare ferroviaire de Richemont. Puis après ça, quand on est dans le domaine plus agro, transformation agro, tout ça, bien, ça dépend si c'est de l'agroalimentaire ou si c'est de l'agroforesterie ou autre. Bien là, c'est pas au même endroit. Watton dispose d'un beau parc industriel. Après ça, quand on est plus dans les travailleurs autonomes qui ont des projets de multimédia ou autre, bien là, ça se répartit un peu partout à travers la région, là, que ce soit Saint-Camille, Saint-Adrien. On a aussi une démarche qui est assez particulière à notre MRC, qui est la démarche d'Agenda 21, qui est un outil de mobilisation incroyable puis un canalisateur des forces vives pour mettre à profit l'ensemble des forces et des moyens des organisations pour atteindre une vision politique claire et assumée de notre territoire. Donc, ce qu'on a, c'est un futur souhaité collectif qui appartient à tout le monde, puis c'est pas une organisation ou une planification stratégique qui a à la portée, c'est tout le monde ensemble. Puis ça, je pense que le message politiquement porté, qui est appuyé par l'ensemble de la région, bien, porte ses fruits aujourd'hui. Que ce soit le centre de santé, la commission scolaire, la caisse, les épiceries, la pharmacie, etc. Tout le monde se range derrière un projet collectif ambitieux comme celui de l'Agenda 21.
Et c'est quoi exactement l'Agenda 21?
L'Agenda 21, c'est une vision de développement durable de notre territoire. Comment penser à adresser les défis de notre communauté, puis de rendre fiers les gens qui vont choisir de vivre ici, qui y habitent, puis comment faire un développement qui va être respectueux des principes du développement durable. Donc, ce n'est pas une diversification économique à tout prix, on fait venir n'importe quelle entreprise, on gâche l'environnement. Ce qu'on veut, c'est se donner une vision qui va rendre, pour les générations futures, qui va rendre notre territoire agréable à y vivre pour longtemps. Donc, c'est toute une mentalité de développement de notre communauté axée sur une vision collective durable.
Et quelle place a occupé l'action citoyenne dans la relance?
Bien, notamment par l'entremise d'un comité citoyen dans les démarches de priorisation et de définition des actions de notre agenda 21. Donc, il y a plus de 250 personnes, que ce soit des organisations, des groupes, des individus, qui ont été rencontrés ou par des questions d'acceptabilité sociale via différents projets qui nous faisaient part de leur perception, de leurs souhaits, de leur du devenir du territoire qu'ils souhaiteraient qu'ils soient. Puis, nous, c'était de les écouter, de tenter de mettre ça en commun, puis d'identifier des lignes directrices pour adresser les défis, les différents enjeux de notre communauté.
Et j'ai cru comprendre que les gens d'affaires sont aussi impliqués là, dans ces démarches.
Les entrepreneurs qui s'impliquent sur les différentes tables, les différents comités, constituent pour moi une action citoyenne. Puis, ben, au niveau de la table de diversification économique, du fonds de 50 millions de la MRC, ben, les entrepreneurs sont majoritaires. Les entrepreneurs de la place, donc moi, je siège sur le comité de la table, mais c'est pas moi qui est décisionnel. Moi, je mets en œuvre les décisions que les entrepreneurs de la région souhaitent. Puis, on est aidé sur cette table-là par... On a le privilège d'être aidé par M. le maire, donc qui investit du temps pour développer la communauté de la région des sources. Puis je pense qu'on peut lui dire un gros merci et faire un excellent travail pour nous.
Et quel impact a eu la relance du point de vue du sentiment d'appartenance à la communauté?
On a vu une transformation du regard de notre historique minier, de la population, face à ce que ça pouvait représenter pour le reste de la population du Québec en général. C'est-à-dire, c'était... la mine d'amiante, c'était une maladie. Pour aujourd'hui, on dirait que ça suscite une fierté dans la population. Regardez ce qu'on a réussi à accomplir pendant les années minières. Regardez comment on est capable, ensemble, collectivement, de se relever. Je pense juste au projet de Slackfest qui a été développé dans la communauté où là, on fait traverser sur une highline des gens qui marchent. On met en valeur le patrimoine minier, on en parle comme d'une fierté collective, on utilise le site minier par sa grandeur pour mettre en valeur notre territoire plus grand que nature. Puis ça, je trouve que c'est une manière de susciter un sentiment de fierté de la population face à la relance, de créer une énergie nouvelle. L'entreprise Moulin 7 est aussi une très belle entreprise qui met en valeur notre patrimoine minier, mais d'une manière gastronomique, donc par la consommation de bière et de la bonne bouffe pour les gens de la place.
Mm-hmm. Comme vous le disiez, le regard des gens est en train de changer sur Asbestos. Et pourriez-vous nous parler de certains projets qui contribuent à changer ce regard-là?
Prenons comme exemple le parc régional du Mont-Ham. En 2012, le parc régional avait une clientèle d'à peu près 12 à 15 000 visiteurs annuels. Aujourd'hui, le Mont-Ham s'est rendu un parc régional en vertu de la loi. Il a été créé. Il y a un partenariat de développement avec la communauté Abénakis qui a permis d'ajouter une couleur autochtone importante qui fait maintenant partie de l'ADN du développement du parc. Puis l'année dernière, on était à au-delà de 42 000 visiteurs annuels. C'est rendu la deuxième destination à randonnée pédestre des cantons de l'Est. Donc, le regard touristique se transforme aussi sur la qualité de notre milieu, la beauté de nos paysages, qu'on peut observer au sommet d'une des plus belles montagnes du Québec.
Pouvez-vous nous parler un peu du BIM, le fameux Bureau estrien de l'audiovisuel et du multimédia?
C'est un projet où on maximise les forces de notre milieu, où on travaille avec des partenaires, des entrepreneurs audacieux, puis on développe un projet fabuleux qui se veut un vecteur de développement extrêmement intéressant à une échelle estrienne. Donc aujourd'hui, on n'a plus peur de se positionner plus grand que le territoire duquel on est issu. Donc le Bureau estrien de l'audiovisuel et du multimédia a la prétention d'œuvrer sur l'ensemble du territoire estrien, pas strictement pour la communauté ou le développement de Saint-Adrien. Mais c'est ce changement de paradigme, d'arrêter de se voir comme une petite MRC et de se voir comme étant une MRC qui est créative, qui est innovante, qui a toute sa pertinence dans l'écosystème régional. Puis ça fait la différence. Donc, on n'a pas peur de rêver. On se dit, les limites arriveront bien vite, soit avec le financement ou soit avec les autres problématiques réglementaires. Mais ne limitons pas nos rêves et notre capacité de travailler et de développer le territoire différemment.
Et comment se porte la MRC des Sources après près de 8 ans de travail sur la relance?
Je vous dirais que, statistiquement parlant, nous le saurons mieux lors du prochain recensement 2021. Il faut comprendre que la diversification d'une économie mono-industrielle depuis plus de 130 ans, ça ne se transforme pas en 5 ou 7 ans. On a une belle progression, on met sur nos forces, nos potentiels, mais il faut comprendre que c'est pas le 1er novembre 2012 là, que l'impact de la diversification économique s'est fait sentir là, après l'arrêt du prêt par le gouvernement du Québec et la confirmation d'une aide financière de 50 millions. Il a fallu bâtir nos stratégies, approcher les partenaires, défendre et revendiquer les modalités d'application du fonds auprès du gouvernement pour tenir compte de nos réalités. Il a fallu travailler avec les entrepreneurs pour bâtir leurs projets de développement, leur financement, leur localisation, les défis, la négociation avec les différentes municipalités où ils tentaient de s'implanter. Puis, il faut réaliser les projets avant que les emplois soient créés. Donc, ce mouvement nous porte aujourd'hui. On a d'excellentes années pour l'investissement et la création d'emplois dans notre région, 2018-2019. 2020, avec le coronavirus, on va voir. On espère que ça n'aura pas eu trop d'impact sur nos entreprises. Toutefois, là, les statistiques qu'on retrouve aujourd'hui, que vous pouvez trouver sur l'Institut de la statistique du Québec ou sur Statistique Canada, ne reflètent pas, je pense, le mouvement économiquement positif et stimulant qu'on retrouve sur notre territoire actuellement.
Et comment se portent plus spécifiquement les municipalités?
Sont plus en train de péricliter, là, sont en mode effervescence. Là. On pense à Amesud, Saint-Camille, Saint-Adrien, Saint-Georges-de-Windsor. Toutes ces municipalités-là sont en plein développement. Watton aussi ont des très beaux projets. Danville, des beaux projets de lotissement, des beaux projets d'entreprises qui sont implantés. Asbestos, on n'en parle pas, là, avec la quantité d'entreprises qui s'est implantée, puis la possibilité de construire, tu sais, qui est très, très intéressante dans la municipalité. Moi, je pense qu'il y a un mouvement de reprise vers le haut qui est inéluctable.
J'aimerais ça faire un petit détour pour voir avec vous quel impact a pu avoir la crise de la COVID-19 sur la stratégie de relance.
Je ne vous cacherai pas que lorsqu'il y a eu la fermeture des entreprises face à la COVID-19, beaucoup de préoccupations ont émané. Je parle notamment de mon milieu, là. Beaucoup de préoccupations politiques, préoccupations des conseillers aux entreprises. Moi-même, là, ma lecture de la situation, là, j'anticipais vraiment des scénarios catastrophiques. Là. Ça a éveillé, en tout cas, beaucoup de préoccupations chez nous. En développement économique, les entreprises en démarrage, là, ils font face à beaucoup d'adversité dans les 4-5e années de leur vie. On appelle ça la vallée de la mort. Donc, le poids des objectifs financiers, le fardeau de la dette, les ajustements nécessaires au plan d'affaires font tomber plusieurs entreprises. Donc, c'est sûr que ça nous préoccupait beaucoup parce que je vous mentionnais tantôt que les plus grosses années d'investissement ont été 2016-2017. Donc, en 2020, là, ces entreprises-là abordaient la vallée de la mort. Donc, c'est certain qu'on avait une perception que tous nos efforts de diversification économique venaient d'être arrêtés et potentiellement de mettre les clés sous la porte très rapidement. Donc, toutes les organisations là, de développement économique de la région se sont alliées, ont travaillé pour contacter l'ensemble des entreprises de la MRC. On parle de l'organisation qui est la MRC, Développement économique des sources, la SADC, les chambres de commerce, les corporations de développement. On était une équipe de 12 à 14 personnes qui travaillaient de très tôt le matin à tard le soir pour contacter les entrepreneurs. On voulait connaître leur état de vulnérabilité financière. On voulait être capable de les aider, d'identifier leurs besoins, les mettre en relation avec les bonnes ressources, leur transmettre l'information gouvernementale. On a classifié chacune des entreprises en vertu d'un code de vulnérabilité face à leurs besoins en fonds de roulement. Puis chaque entreprise était accompagnée dans le processus. Vous me direz, c'est pas parfait. Il y a personne qui avait un livre des réponses à adresser aux entreprises face à la situation. Personne ne savait quand est-ce que la relance allait se faire au moment où tout était fermé. Mais les entrepreneurs savaient qu'ils pouvaient compter sur nous, l'ensemble des organisations. On a mis en place des moratoires. Je vous énumérerai pas l'ensemble des mesures qu'on a fait, mais ça l'a vraiment, je pense, permis de rassurer les entrepreneurs que on était là. Donc, ça a été une période intense. Pour plusieurs, je pense bien.
Et en terminant, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui commence dans le milieu du développement des communautés, ça serait quoi?
Je pense que je lui dirais que la force d'un professionnel ne réside pas qu'en ses compétences professionnelles, mais dans son réseau. Le savoir-être, là, ça va t'ouvrir des portes. Le savoir-faire va te permettre d'asseoir ton expertise, puis surtout, de ne pas te faire montrer la porte. Mais comprends, là, c'est qui tes partenaires clés, les leviers sur lesquels tu peux compter, et surtout, mets-toi à l'écoute.
Frédéric Marcotte, directeur général de la MRC des Sources, merci beaucoup, c'était très agréable.
Tout le plaisir est pour moi, merci.
Vous écoutiez Sonar. L'Observatoire estrien du développement des communautés accompagne et renforce les communautés dans le développement d'une culture d'apprentissage et de la capacité d'agir collective. Vous aimez ce balado? Devenez membre de l'Observatoire pour bénéficier de plusieurs avantages.